Radio Campus.
C'est une histoire qui va peut-être t'ennuyer, mais tu n'es pas obligé d'écouter.
88.3.
Qu'est-ce que tu
as dit?
Je sais pas,
tu dis Radio Campus.
Je sais pas ce qu'il vient
faire,
Radio Campus.
Mais j'ai rien pour l'instant, Radio Campus.
Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées.
Le moulin à parole.
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Campus Orléans 88.3. Vous écoutez une émission spéciale animée par Lina et les élèves de première G6 du lycée Benjamin Franklin. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous concerne tous d'une façon ou d'une autre, le racisme. Ensemble, nous allons explorer les différentes facettes de cette problématique et discuter des solutions possibles pour lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité. Pour commencer, puisque nous sommes lycéens, nous traiterons du racisme dans le milieu scolaire avec mes camarades Marc et Benjamin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Lina.
Bonjour Lina, merci de nous recevoir.
Marc, peut-être que tu peux commencer par nous rappeler ce qu'est le racisme.
Le racisme est une idéologie postulant une hiérarchie des races. Nous voulions savoir un peu plus sur ce que nos camarades du lycée en pensaient à ce sujet et dépasser nos intuitions là-dessus. Nous avons donc réalisé un sondage portant sur l'ensemble des lycéens. Nous avons donc constaté que beaucoup d'élèves ne savaient pas ce qu'était réellement le racisme.
En effet, 42% des élèves pensent que le racisme se résume à la haine des étrangers, alors qu'en réalité, c'est une idéologie qui prône une hiérarchie des races.
Toujours selon notre sondage, sur 1507 élèves, environ 11% d'entre eux ont déjà été victimes de racisme.
Qu'en est-il à l'échelle nationale ?
Selon l'Assemblée nationale, sur 1000 élèves, 8,1% d'entre eux ont déjà été victimes de racisme.
Malgré ces résultats, les établissements scolaires, en particulier les lycées, restent un espace sûr et protecteur dans ce domaine. Effectivement, moins de 2 personnes sur 10 ont reçu des propos à caractère raciste dans notre lycée, contre plus de 4 personnes sur 10 à l'extérieur de l'établissement.
Et concrètement, le racisme prend quelle forme ?
Justement Lina, tu fais bien de poser la question car tu n'es pas la seule à te le demander. Le racisme peut s'exprimer sous plein de formes différentes, notamment par des blagues, la discrimination qui mène au harcèlement ou encore sous la forme d'insultes et de violences physiques.
Parlons maintenant des conséquences qu'engendre le racisme. Malheureusement, pour les victimes de racisme, cela entraîne des multiples conséquences. Elles peuvent se sentir en insécurité, ça entraîne également une baisse de l'estime de soi, de la méfiance vis-à-vis de leurs camarades, un rejet. Cela peut aussi avoir un impact négatif sur la santé de la victime.
Ces discriminations racistes sont omniprésentes pour les jeunes victimes, car on observe que les élèves sont orientés vers des choix scolaires fondés sur des stéréotypes raciaux. Les élèves racisés vont être plus facilement orientés vers l'enseignement scientifique.
Qu'est-ce que tu entends par stéréotypes raciaux ?
C'est une idée toute faite et fausse sur un groupe de personnes, notamment caractérisées par une origine ou une couleur de peau. Ces images stéréotypées sont présentes quotidiennement pour les adolescents ayant des origines surtout africaines, maghrébines ou asiatiques.
Ces stéréotypes entraînent, comme les discriminations, un changement du comportement, de l'état émotionnel ou pire, un changement de la performance des victimes.
Vous avez un exemple concret ?
Oui, je vous explique. Aux États-Unis, 2 chercheurs partent du constat que le stéréotype, entre guillemets, des personnes noires peu intelligentes, est très présent dans la société. Ils décident donc de faire passer un test. Quand le questionnaire s'intitule « Test d'intelligence », les Noirs réussissent moins bien que les Blancs. Quand le même questionnaire s'annonce comme un test de raisonnement, les Noirs réussissent aussi bien que les Blancs. Marc, tu nous fais une conclusion ?
Avec plaisir. Les stéréotypes et les discriminations racistes s'auto-alimentent. C'est ce qu'on appelle la menace des stéréotypes. Il y a un réel danger car ces discriminations sont omniprésentes au quotidien et qu'à force de les laisser passer, le racisme devient banal et inaperçu dans les lycées. Pour rappel, le racisme est interdit par la loi et est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Merci beaucoup à vous deux pour nous avoir éclairés sur le sujet. Les discriminations raciales peuvent se faire sous différentes formes et notamment par l'humour. Demandons plus de précisions à Manon et Ajar qui se sont intéressés à cette facette du racisme. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Lina.
Bonjour Lina, merci beaucoup de nous accueillir.
De nos jours, comme vous le savez, le racisme est devenu quelque chose de courant et presque d'omniprésent. Des discriminations aux insultes en passant par l'humour, il prend anormalement d'ampleur, à une époque où les revendications égalitaires ont plus que besoin d'être entendues. Nous nous penchons aujourd'hui sur un aspect de cette problématique, la plus interpellante selon nous, car omniprésente au sein de notre établissement scolaire. L'euphémisation du racisme par l'humour. Comme mentionné précédemment, le sondage réalisé à l'échelle de notre lycée auprès des élèves révèle des résultats préoccupants. Sur les 33% des élèves qui ont répondu à la question portant sur les blagues racistes, seulement 44% d'entre eux estime qu'une blague à caractère raciste bordée par l'humour constitue un délit et que cela est très grave.
Nous savons pourtant que cette banalisation n'est pas récente et qu'elle a empiré ces dernières années. Maintenant, minimisée car justifiée par la liberté d'expression ou par l'humour, ces plaisanteries sont parfois jugées drôles, mais elles sont en réalité insultantes. Souvent, énoncée dans son cercle proche, ses amis ou ses camarades de classe, la personne visée risque d'intérioriser ce processus, puis de se persuader que ce qu'elle subit est normal et qu'elle n'est donc pas victime de racisme banalisé. Ces blagues, dites « marrantes », doivent cesser. Elles ne sont pas normales, même si elles sont dites entre proches, car ce que nous jugeons drôle peut blesser. Pour lutter contre ce fardeau sociétal, des solutions émergent, comme augmenter les amendes ainsi que les sanctions pour les auteurs d'actes racistes, élaborer des lois spécifiques contre les différents types de racisme, mais aussi de mettre en place des programmes de sensibilisation dès le plus jeune âge, ainsi que la mise en place de formations pour les forces de l'ordre. Enfin, il faudrait renforcer la collecte de données sur les délits racistes pour comprendre l'ampleur des problèmes.
Oui, et de plus, plusieurs séances de prévention et de lutte contre les discriminations sont effectuées chaque année dans les établissements scolaires. Ici, par exemple, à Benjamin Franklin, notre classe de première a assisté à une séance de prévention, durant laquelle nous avons pu participer au jeu du pas en avant, qui consiste à décrire le statut d'un personnage, puis à deviner son physique à l'aide des illustrations données. Ce jeu nous a entre autres fait découvrir les différents stéréotypes qui nous catégorisent, et notamment ceux liés à nos origines. Les stéréotypes raciaux, comme expliqué précédemment. Ces stéréotypes sont ainsi véhiculés et intégrés dans notre société à travers l'éducation, la culture et les valeurs inculquées aux enfants, donnant alors naissance à des discriminations qui contribuent elles-mêmes à former des inégalités.
Ces blagues, toutes sauf drôles, ont des conséquences néfastes sur les individus sujets à ces propos. Violence, exclusion et isolement ont un impact sur le comportement et la scolarité des victimes. Les élèves se sentent rejetés par leurs camarades et s'isolent, ce qui peut engendrer une phobie scolaire, faire chuter leurs résultats et amoindrir l'estime de soi.
Merci beaucoup à Ajar et Manon pour cette discussion. Gender, the skin color, the complexion of your pigment, the same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. Mais le racisme ne s'étend pas seulement à l'échelle scolaire. Avec l'aide de mes camarades Antoine et Julien, nous allons voir qu'il existe aussi dans le monde professionnel. Bonjour Julien.
Bonjour Lina.
Bonjour Antoine.
Bonjour Lina.
Vous avez travaillé sur le racisme dans le milieu professionnel. Qu'avez-vous appris ?
Le racisme professionnel est une forme de racisme qui a lieu dans le domaine du travail. On constate des discriminations liées à l'ethnie qui empêchent l'individu de se développer professionnellement.
Et comment est-ce que ça se caractérise concrètement ?
Pour répondre à cette question, on a été demandé à plusieurs personnes dans la rue ce qu'elles en pensaient, et voici les réponses qui sont le plus ressorties. Discrimination à l'embauche, sur les promotions et sur les missions confiées.
Effectivement, selon une étude menée par l'INSEE, les hommes descendants d'immigrés, et particulièrement dans le cas du Maghreb, sont bien plus discriminés par les employeurs que les hommes sans ascendance migratoire. Sur un échantillon de 9600 candidatures, ayant des noms à consonance maghrébine et française, 33,3% des candidatures avec un nom à consonance française sont rappelées, contre seulement 22,8% de celles avec un nom à consonance maghrébine.
Exact. On se rend compte que, malgré des compétences similaires, deux individus dont l'ethnie est différente ne peuvent parfois pas se développer professionnellement de la même façon. C'est une injustice récurrente dans le monde du travail, valorisant non pas les compétences, mais plutôt la couleur de peau. Et cette injustice est d'autant plus présente dans le secteur privé.
Oui. En effet, à nouveau d'après une étude menée par l'INSEE, je cite, « les actifs d'origine étrangère ont des taux d'emploi en contact avec la clientèle plus faibles que ceux dont les deux parents sont originaires de métropole. » Et cette différence ne s'observe que dans le secteur privé, particulièrement dans le domaine de la restauration.
Par exemple, en janvier dernier, Mamouba, gérante de deux restaurants en Picardie, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer les conditions de travail difficiles qu'elle subit en raison de sa couleur de peau. Elle a partagé les remarques racistes qu'elle reçoit de certains clients qui mettent en doute sa capacité à gérer ses restaurants. Un exemple rapporté par France Bleu illustre bien cette discrimination. Un client lui aurait dit qu'il aurait préféré avoir une patronne blanche. Le racisme dans le monde professionnel demeure un obstacle majeur pour près de 10% de la population française. Des milliers de personnes, à l'instar de Madame Ba, s'interrogent sur leur avenir en France face à de telles attitudes discriminatoires. Le témoignage de Mamouba souligne l'urgence d'éradiquer toutes les formes de racisme pour créer des environnements de travail équitables et respectueux.
C'est pour ça que différents moyens sont mis en place par l'État pour prévenir et empêcher les cas de racisme au travail. D'abord, l'article L1132-1 du Code du travail condamne toute forme de discrimination pour les procédures de recrutement, de nomination, d'accès à un stage ou de période de formation. L'individu encourt jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison ferme, alors qu'une entreprise risque jusqu'à 225 000 euros d'amende.
Oui, et il y a également les agents de contrôle de l'inspection du travail qui sont censés empêcher ces discriminations. Des formations à la non-discrimination à l'embauche sont proposées pour les employés des entreprises de plus de 300 salariés au moins une fois tous les 5 ans.
Mais est-ce suffisant ? Ces mesures peuvent sembler très légères. Et de plus, par exemple pour les PME, elles ne sont pas toutes concernées par les formations.
Oui, sachant que les discriminations raciales commencent dès le plus jeune âge. Merci à vous deux. À présent, j'accueille Célian. Bonjour Célian.
Bonjour Lina.
Quel est le sujet de ta chronique, Célian ?
Eh bien, pour prolonger notre analyse sur le racisme et les discriminations à la fois en milieu scolaire et dans le monde professionnel, je vais parler des discriminations apportées par la loi immigration pour les étudiants étrangers souhaitant travailler en France. En effet, cette loi récente votée le 26 janvier 2024 vise une partie spécifique de la population arrivant sur le territoire français. Les étrangers font désormais face à de nombreuses mesures et restrictions toutes plus contraignantes les unes que les autres, comme une caution de retour. Nous tous savons à quel point le cheminement d'un projet de loi et de ses enjeux relève de la difficulté à être voté par les députés et validé par le Sénat et le Conseil constitutionnel. On peut se questionner sur les répercussions engendrées par cette loi pour les étudiants travaillant déjà en France ou souhaitant accéder à des études égalitaires et justes. Sous le nom de loi immigration, cette législation comporte diverses formes de discrimination, telles que des quotas pour les étrangers, des obligations de caution de retour, des frais d'inscription et d'administration, ainsi que des délais administratifs indéfinis. Ces mesures compliquent considérablement l'accès des étudiants étrangers à l'éducation, ce qui a suscité un débat politique important, provoquant une polarisation entre les partis politiques et l'opinion publique. Doit-on voir cette loi comme une forme de durcissement de la part du gouvernement au sujet des frontières et des nouveaux arrivants, qui permettrait de régulariser ces personnes dans la population française ? Doit-on qualifier cette loi comme étant xénophobe ou raciste ? Pour les étudiants, elle représente un obstacle supplémentaire dans leur parcours académique, créant des tensions familiales et une pression accrue en raison des charges administratives et des frais de scolarité élevés. De plus, une fois franchies les barrières administratives, les étudiants se heurtent à d'autres formes de discrimination au sein des établissements scolaires, notamment linguistiques, ce qui entrave leur intégration sociale. De plus, cette législation risque de nuire à la réputation internationale de la France en tant que destination éducative accueillante et ouverte. Les politiques restrictives peuvent dissuader les talents internationaux de choisir la France pour leurs études, ce qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur la diversité et la richesse culturelle des institutions académiques françaises. Finalement, la question de l'immigration et de l'éducation transcende les frontières politiques et demande une réflexion approfondie sur les principes fondamentaux de la justice sociale et de l'égalité des chances.
Merci beaucoup Célian pour ce billet et ce rappel à propos de la loi immigration. Terminer notre émission, je suis heureuse d'accueillir maintenant Alexandre. Bonjour.
Bonjour Lina et merci de m'avoir invité aujourd'hui.
Nous accueillons également Gaël.
Bonjour Lina.
Vous allez aborder un sujet très complexe, celui du racisme anti-blanc.
En effet, le racisme en France, c'est indéniable, touche les minorités, qu'elles soient noires, d'origine arabe ou encore asiatique. Mais depuis environ 40 ans, nous entendons parler d'abord par le Front National dans les années 80, puis par les médias, les politiques et même dans notre entourage, d'une nouvelle forme de racisme qui toucherait les majoritaires en Europe, le racisme anti-blanc. Selon CNews, 80% des Français pensent qu'il y a un racisme anti-blanc en France. Or, cette notion fait débat. Certains disent qu'il est une réalité, d'autres que le concept même de racisme contre les Blancs n'a aucun sens. Qui se dit humaniste se doit de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination. Et elles existent sous de nombreuses facettes. Sexisme, homophobie, racisme, etc. Comme mes camarades vous en ont parlé tout au long de l'émission. Mais on peut se demander comment on pourrait le définir et pourquoi il est tant contesté, alors que le combat contre les discriminations en tout genre est d'autant plus important aujourd'hui. Nous avons interrogé 12 personnes autour de l'agglomération orléanaise pour connaître l'avis des Orléanais sur le sujet. Et bien que ce sondage ne soit pas représentatif, on observe quand même une récurrence. 83% des interrogés pensent que les personnes blanches peuvent être victimes de racisme. Et certains disent même en avoir été témoins. On a pu constater également, en faisant ce sondage, que les personnes interrogées nous ont donné, presque chacune, une définition différente de ce que peut être le racisme. Ainsi, Alexandre, peux-tu nous éclairer sur le sujet ?
Selon l'Observatoire des inégalités, discriminer, c'est d'abord séparer, trier. Ainsi, on peut imaginer, et même observer dans certains quartiers non mixtes, qu'une discrimination anti-blanche peut avoir lieu, à cause d'une haine ou d'une peur, par exemple.
Mais peut-on pour autant parler de racisme ?
Selon le Musée de l'Histoire de l'Immigration, le racisme se définit comme une forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique ou raciale de la victime, qu'elle soit réelle ou supposée. Ainsi, cette définition n'exclut pas les personnes de couleur blanche. Toujours selon le musée de l'Histoire de l'Immigration, parfois elle se présente comme une idéologie, une théorie explicative des inégalités entre les hommes et propose alors une hiérarchie entre les groupes humains.
On peut donc distinguer deux manifestations différentes du racisme ?
Tout à fait. La première correspond à des hostilités envers des individus à cause de la couleur de peau, de l'origine ou de la race supposée. Ce racisme s'exprime de manière plutôt individuelle et il peut, semble-t-il, toucher toutes les origines. Par exemple, une personne que nous avons interrogée nous a témoigné qu'un proche avait été poursuivi par des noirs armés qui disaient « on va te fumer sale blanc ». Ensuite, on peut parler d'une forme de racisme plus systémique, qui est exercée par la société et parfois par les lois. Le racisme anti-blanc est contesté à cause de cette vision de la discrimination, parce que les blancs ne seraient pas discriminés à l'embauche ou au logement. Et c'est vrai. Et aussi, parce que les blancs n'auraient pas subi de l'esclavage et n'aurait pas été victime de discrimination dans l'histoire, sans compter la traite des États barbaresques, qui était minoritaire, mais qui a quand même fait plus d'un million d'esclaves européens majoritairement blancs, entre le XIVe et le XVIIIe siècle.
D'ailleurs, le point de vue de ceux qui pensent que le racisme anti-blanc est une réalité est très bien repris, si vous avez vu la série La Fièvre, scénarisée par Reed Benzekris sur Canal+. Mais le racisme a été établi par les blancs pour hiérarchiser les races, ce qui les empêche d'en être victimes, n'est-ce pas ?
C'est vrai, mais dans les faits, le racisme et l'esclavage sont loin d'être une exclusivité blanche. On peut citer par exemple la traite arabo-musulmane qui a duré 1300 ans et qui continue de sévir encore aujourd'hui. Si vous avez lu le génocide volé de Tidiane Ndiaye, et ça n'empêche pas les personnes arabes d'être victimes de racisme, et fort heureusement celui-ci n'est pas nié.
Mais finalement, le racisme anti-blanc, ça existe ou pas ?
D'abord, et c'est un fait, nous en avons vu un exemple, les agressions anti-blanches, même si on peut dire qu'elles sont isolées, faits divers ou non, elles existent et se manifestent. Et je pense qu'on peut les considérer comme des discriminations. Et nous l'avons vu tout au long de cette émission, Il faut les combattre sous toutes ses formes. Ensuite, si on considère qu'un acte isolé envers une personne de couleur en raison de celle-ci peut être considéré comme du racisme, alors je pense qu'on peut dire que le racisme anti-blanc existe. Mais si on admet que le racisme n'est que systémique, et donc se manifeste par des lois, ou à l'embauche, au logement, du point de vue de la justice, etc., alors les actes isolés ne sont plus considérés comme du racisme pour tout le monde, qu'on soit une personne blanche, noire, arabe, asiatique, et donc le racisme anti-blanc n'existe pas.
Pour conclure, qu'il existe ou non, si l'on suit une logique humanitaire, toute forme de discrimination va être combattue. Alors, même si beaucoup de chemin a été fait, continuons de les combattre et ne les réduisons pas au silence tant qu'elles continuent d'exister.
Nous voici arrivés à la fin de notre réflexion sur le racisme, à l'école, dans les études ou dans le monde du travail. Merci aux élèves de 1ère G6 de Benjamin Franklin pour leur réflexion éclairée et bien évidemment aux professeurs qui nous ont introduits à ce projet. Merci à Célian, Artus et Julien, qui sont les auteurs de la musique originale que vous avez pu écouter. N'oublions pas que l'humour a ses limites et continue à lutter contre le racisme avec sérieux. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On espère vous retrouver très vite pour de nouvelles discussions enrichissantes sur Radio Campus Orléans 88.3.
Radio des écoles, atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
balloons burst. It's like a curse, like a curse. It's like a curse, like a curse. Colored balloons burst. Colored balloons burst. It's like a curse, like a curse. It's like a curse, like a curse.